Bonjour.
Bonsoir, merci d'être venus si nombreux pour écouter Catherine Ney. Alors, nous avons simplement un léger changement de programme, qui est que le modérateur prévu va arriver, mais il a un tout petit peu de retard. Donc, moi qui suis donc, libraire à la librairie Mola, je vais commencer à poser quelques questions à Madame Ney autour de son livre L'Impétueux. Vous aviez ouvert le... par ailleurs, je n'ai pas commencé par vous présenter, mais je ne vous présente pas, puisque voilà, vous êtes l'une des journalistes politiques les plus réputées. Vous avez commis au final assez peu de livres par rapport à bien d'autres de vos confrères. À peu près, on va dire, un par septennat, entre un et demi par septennat. Et vous aviez justement ouvert le quinquennat de Nicolas Sarkozy par une biographie qui dressait le portrait de ce nouveau président qui s'annonçait en rupture avec ses et surtout son prédécesseur immédiat. Et vous clôturez donc ce quinquennat avec cet ouvrage, ce gros ouvrage, alors que le quinquennat a été marqué par de nombreux libelles assez brefs, par ce gros ouvrage autour de Nicolas Sarkozy, qui se veut une synthèse, et comme vous le disiez, une synthèse d'une façon avec les deux yeux sur ce président. Quel était le projet qui vous a motivé justement dans cette écriture? Est-ce qu'elle a commencé dès le début du quinquennat, ou est-ce que c'est quelque chose vraiment de terminal?
Oui, j'ai commencé par faire la biographie de Nicolas Sarkozy parce que c'était un homme dans la vie politique française qui avait ceci de singulier. Il était le seul qui a commencé au plus bas échelon de la politique, c'est-à-dire à 20 ans en repeignant la permanence de Neuilly, et puis en gravissant échelon par échelon, député, maire, puis député, puis secrétaire d'État, ministre, enfin. Et c'est quelqu'un qui, dès l'âge de 20 ans, a voulu être président de la République et qui s'est forgé ce but. Donc j'ai raconté dans un premier livre sa biographie avec l'enfance, les raisons pour lesquelles il avait cette ambition, et puis surtout cette autre singularité, c'était que je trouvais qu'il était un athlète de la politique, parce que j'avais été frappée par cette vitalité, cet engagement presque hors norme. Et moi, je me demandais toujours, est-ce qu'on peut continuer à ce rythme-là en ayant ce corps et cet esprit infatigable? Et donc, lorsqu'il s'est lancé en politique et il est arrivé à l'Élysée, je trouvais normal, ayant expliqué d'où il venait et quelles avaient été ses motivations, de toute façon, quand quelqu'un fait de la politique, ses motivations sont toujours nobles, c'est qu'il ambitionne de réformer, et lui, quand il parlait de rupture, c'est qu'il voulait évidemment rompre avec l'atonie réformatrice qui avait été le passage à l'Élysée de son prédécesseur Jacques Chirac, qui était resté 12 ans au pouvoir, 7 ans interrompus par 5 ans de cohabitation et un quinquennat où on peut dire que ça n'a pas été un quinquennat qui a été marqué par la réforme. Et donc, c'est un opposant à Jacques Chirac qui est arrivé au pouvoir. Et donc, je voulais étudier ce que, entre le projet et la réalisation, il se passait. Et donc, le but de mon livre, c'est de raconter le quinquennat de Nicolas Sarkozy depuis son arrivée à l'Élysée.
Et du coup, en fait, le livre est une vision donc stéréoscopique à la fois de deux choses, de sa politique, mais aussi vous insistez pas mal parce que vous considérez que ça a des implications et des explications par rapport à sa politique, qui est la partie personnelle et même affective de sa vie. Et toute la... Donc le livre, en fait, suit vraiment année par année les grandes lignes du quinquennat. Et on peut considérer que pour beaucoup, la tâche originelle du sarkozysme, ce sont quand même les premiers jours de son élection, à savoir la fameuse soirée aux Fouquettes et après les vacances Bolloré.
Oui, absolument. Donc évidemment, l'autre singularité du septennat, du quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est que c'est la première fois dans l'histoire un homme qui veut aller au pouvoir et qui doit gérer, alors qu'il est en campagne, le début de la rupture, celle qu'il ne voulait sûrement pas, c'est la rupture avec son épouse. Et donc, ça a été quelque chose... Bon, il était très attaché à Cécilia. La rupture avait commencé 2 ans auparavant. Bon, ça, ce sont les aléas de la vie. Elle était tombée amoureuse de Richard Attias, qui était un homme qui travaillait chez Publicis et qui avait été engagé par l'UMP pour organiser la grande fête de l'UMP lorsqu'il a pris le pouvoir. Et puis, ça a été une rencontre entre un homme et une femme. Ça, ce sont les accidents de la vie. Cécilia est tombée amoureuse d'Attias. Attias l'a courtisée. C'était peut-être la première fois qu'un homme osait draguer la femme de Sarkozy. Enfin bref, il s'est passé cette chose qui arrive quelquefois entre un homme et une femme, et seulement c'était pas prévu dans le parcours de Nicolas Sarkozy. Et lui, c'est un homme qui était très attaché à Cécilia, même de manière peut-être même immature, et c'est en tous les cas un homme qui a besoin de vivre en couple. C'est quelqu'un pour son équilibre, il l'a toujours dit, il l'écrit même quand il dit le mot famille, c'est un mot qu'il emploie comme ça avec beaucoup d'emphase, parce que je crois que c'est quelqu'un qui a souffert dans son enfance de ne pas avoir de famille, avec un père absent. Et donc, il disait dans son livre Libre, moi, je pense que le plus beau, ce qu'on peut le souhaiter le mieux à un jeune, c'est de réussir sa vie de famille. Donc, il est évident que lorsque Cécilia a commencé, est partie à New York, il est allé la chercher, elle est revenue, il pensait que oui, c'est vous, mais alors venez. Bon, on commençait, on parlait de Cécilia, vous voyez, donc de la difficulté. Donc, je veux dire, et il est vrai qu'il a vécu avec elle une sorte d'enfer, parce que lorsqu'il a quitté le ministère de l'Intérieur pour commencer la campagne, elle l'a chassé du domicile conjugal, elle l'a envoyé vivre chez Desaigne, le patron du Fouquet's. Elle n'était pas présente pendant la campagne, et lui était tellement humilié et souffrait tellement que, d'abord, Sarkozy, c'est quelqu'un qui ne se plaint jamais, qui ne dit jamais je suis fatigué, je suis malheureux, et qui ne va pas dire évidemment je suis cocu, c'est la chose qu'il ne peut pas dire. Donc il le cachait à tout le monde, il ne disait rien à sa famille, et il espérait au fond de lui-même qu'une fois élu, elle ne partirait pas. Donc il mâchait du fer, et puis quand il a été le soir de son élection, il s'est aperçu que là son couple partait en vrille, et ça a été, le vainqueur du 6 mai est un vaincu de l'amour, et Cécilia, du jour où il a été élu, n'a eu de cesse que de s'en aller et de lancer des signaux d'appel à son amant qu'elle voulait reconquérir, parce qu'elle n'était pas du tout sûre de le reconquérir. Mais vous voyez, l'histoire quand même hors norme dans l'histoire de la Ve République, c'est que pendant que lui partait à la conquête des Français, il avait une femme qui, elle faisait une autre campagne, mais c'était pour reconquérir Attias. Donc c'était, disons qu'il y avait inadéquation entre l'offre et la demande, et puis ça s'est terminé par le divorce... En octobre...
Catherine, sur cet épisode, il y a les déclarations récentes de Richard Attias qui infirment ce que vous semblez dire. Et surtout, vous décrivez un petit peu Nicolas Sarkozy comme piégé, entre guillemets, par la soirée au Fouquet's, par le choix des personnalités. Et Richard Attias dit c'est tout l'inverse, elle n'y était pour rien.
C'est Richard Attias qui le dit. Je pense qu'il n'est pas le meilleur témoin pour dire une pareille chose. Je peux dire que mon enquête, elle est en béton. J'ai mis 8 mois à faire ce premier chapitre. Donc, je pense que... Je vais vous dire la vérité. C'est que l'autre soir, quand je suis passée chez Ruquier, à un moment, Ardisson me faisait raconter une anecdote qui est vraie. C'est que quand elle est allée au G8 d'Eligenda accompagner son mari, elle portait les bijoux que lui avait offert Attias. Donc, c'était un signal à Attias pour lui dire « Tu vois, je suis là, mais je pense à toi. » Enfin, bon. Et donc... Quand j'ai raconté cette anecdote véridique et recoupée, Ardisson, qui est toujours le mot qu'il faut, dit « Ah, la salope ». Bon, et Ruquier a dit « Ah oui, on peut dire que c'est une salope ». Donc,
Vous dites qu'elle avait besoin de lui donner les preuves d'amour planétaire.
Oui, parce que quand elle ne va pas, quand elle refuse d'aller chez Bush... Tout ça, c'était pour reconquérir Attias. Bon, alors que moi, je ne veux pas polémiquer avec Richard Attias, parce que j'ai aucune raison. Moi, je trouve qu'au contraire, il devrait se réjouir comme homme. Je veux dire, pour l'ego d'un homme, c'est formidable qu'une femme, par amour pour lui, ait pu faire tout ça, qui pénalisait quand même son ex-mari, mais quand même président. Et, je veux dire, c'est rare qu'une femme quitte un président, un homme qui devient président de la République. On peut dire même que c'est beau. Il y a des femmes qui disent, elle est courageuse, c'est téméraire. Il y a des femmes qui trouvent qu'elle est formidable, vous voyez. Mais moi, je ne fais pas un livre sur Cécilia. Si je faisais un livre sur Cécilia, je raconterais l'histoire autrement. Moi, je raconte ce que subit un homme qui est en campagne. Et Dieu sait si c'est dur d'être en campagne. Et on le voyait bien, ceux qui accompagnaient il y a 2007. Vous voyez, le grand paradoxe, c'est qu'il y a 7 ans, il était à peu près sûr d'être réélu, mais il était très, très, très déprimé et de très mauvaise humeur, donc irascible et presque infréquentable, enfin difficilement fréquentable pour ses collaborateurs, alors qu'aujourd'hui, il n'est pas sûr d'être réélu, mais comme il a retrouvé un équilibre personnel, il est beaucoup plus urbain, agréable pour ses collaborateurs, alors que l'issue n'est pas jouée, vous voyez. Alors, non, mais la polémique d'Attias, moi, je m'en moque, quoi. Il dit, il essaie de calmer Cécilia, qui n'est pas contente parce qu'elle a été traitée...
Oui. On peut s'y arrêter parce que oui. Là, on parle aussi, aussi de Nicolas Sarkozy que de parler de ce qu'on va évoquer. Oui, oui. Quand il a dit maintenant, je sais que j'ai une famille et puis si je gagne, je sais où j'irai la fêter. C'est quelque chose de solide entre amis, etc. Et ça, elle le prend mal quand même.
Mais elle le prend mal.
Alors que finalement, dans les 3-4 dernières années, elle n'a cessé de le soutenir et
De soutenir qui ?
Sarkozy.
Qui ?
Cécilia.
Comment elle l'a soutenu ?
Oh, elle a appelé à voter pour lui. Elle a dit que c'est un bon président.
Elle peut toujours dire ça aujourd'hui, mais en attendant, en 2007, elle n'avait pas voté pour lui. Et puis, je veux dire...
Ça veut dire que pour lui, c'est un épisode qui n'est pas tout à fait refermé quand même.
Je crois que maintenant, la page est totalement fermée. Et quand il dit « maintenant, je sais où aller », c'était pour signifier que lorsqu'en 2007, elle l'a quand même fichu dehors de l'appartement familial où elle vivait avec Louis et sa fille. C'était quand même, n'oubliez pas cet épisode, pour montrer aux Français qu'il allait au bureau de vote avec elle pour voter, le premier tour, il a dû se cacher dans une voiture qui est entrée dans le parking de l'immeuble où
il vit. Vous expliquez qu'il rentre par... Il sort avec...
Pouvoir sortir avec elle où le chauffeur les attendait. Donner le change. Bon. Et alors, elle a bien voulu aller voter avec lui pour le premier tour et le deuxième tour, elle n'a pas voulu. Elle n'a pas été votée du tout. Alors qu'elle dise maintenant, je vais voter pour lui, je veux dire, on s'en fout.
Explique quelque chose de son caractère ? Finalement, on a l'impression qu'il ne se...
Comment ?
Il ne s'y résout jamais au fait qu'elle veuille le quitter. Est-ce que ça en dit long sur son caractère période-là ?
Mais pendant cette période-là, il avait du mal à s'y résoudre parce que, on compare souvent Sarkozy à Napoléon qui avait répudié Joséphine. Là, c'était Joséphine qui répudiait Napoléon. C'était quand même très, très dur. C'est quand même aujourd'hui, bien sûr, on a d'autres critères. Après tout, on admet qu'un homme qui est quitté par sa femme est malheureux, mais c'est pas ridicule parce qu'on sait qu'aujourd'hui les divorces c'est quelque chose de courant. Mais enfin, c'était quand même pour lui quelque chose de très très dur à accepter, surtout qu'il aimait Cécilia. À la différence de ses prédécesseurs, Chirac, Mitterrand, n'en parlons pas. Je veux dire, tous ces hommes avaient plus ou moins des vies doubles, en tous les cas des liaisons longue durée. Hein. D'ailleurs, dans le cas de Chirac, Bernadette l'a reconnu dans le livre qu'elle avait fait avec Carolis. Tandis que lui, moi, je ne dis pas qu'il ait jamais eu des incartables. Je ne le dis sûrement pas parce que ça serait pas la vérité. Mais c'est pas quelqu'un qui entretient une vie double. Oui, ça n'a jamais été ça. Et il aimait vraiment cette femme qui lui échappait. Et sûrement, il a beaucoup souffert. Et comme c'est quelqu'un qui ne dit jamais de choses négatives sur lui-même, ni je suis malheureux, ni je suis fatigué, il faisait partir la vapeur en ayant un caractère et une violence verbale qui a été la marque des premiers mois de son quinquennat. Ça, c'est sûr.
Pour clore ce chapitre et pour ouvrir le suivant, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que... ce qu'il a vécu à cette période-là explique beaucoup ce qu'on a appelé les ratés du début du quinquennat. Ou bien est-ce que quand même il le tient dans son caractère ?
Il y a beaucoup de... En tous les cas, les erreurs du début, que ce soit le Fouquet... Alors, le Fouquet, c'est absolument elle qui est allée voir De Saigne pour lui... D'abord, elle voulait le remercier... Elle voulait faire ça au Fouquet pour le remercier d'avoir accueilli son mari chez lui pendant toute la campagne. C'est l'UMP qui a payé le bon. Et puis surtout, elle voulait avoir la maîtrise des invitations. Or, Cécilia ne voulait... Si, comme c'était prévu, la fête avait eu lieu au QG de campagne, comme elle a eu lieu le soir du premier tour, elle n'aurait pas pu fermer la porte au 7-8, à l'équipe de Sarkozy, avec parmi eux Franck Louvrier, Brice Hortefeux, Frédéric Lefebvre, qui avait, ou Pierre Charron, qui avait entouré Nicolas Sarkozy quand elle était partie à New York avec Attias. Et ils avaient été auprès de lui, il l'avait soutenu, dorloté, enfin, il s'était occupé de lui. Et quand elle est revenue, Elle a eu l'impression de lire dans leur regard une forme de non-respect. Elle était celle qui avait trahi le chef. Et donc, elle n'a pas retrouvé sa place. Et elle leur en voulait. Bon. En plus, eux disent que Rachida lui racontait qu'ils étaient très contents qu'elle soit partie. Donc, enfin, bref. Donc, elle a voulu les exclure de la fête comme elle voulait les exclure et du gouvernement et de l'Élysée. Elle a essayé. Elle y est en partie réussie, mais pas tout à fait. Vous voyez, donc le Fouquet, c'est elle qui a fait les invitations, et Nicolas Sarkozy, pensant qu'enfin elle voulait faire quelque chose pour lui, lui a laissé le choix du lieu, le choix des invitations. Mais dans le Fouquet, c'est pas tellement le lieu qui a fait problème que les invitations, parmi lesquelles il y avait plusieurs patrons du CAC 40, donc un rassemblement de milliards d'euros, et ça fait toujours mauvais effet quand on a fait campagne sur le travailler plus pour gagner plus, hein. Voilà, c'était pas tout à fait en adéquation avec le thème de campagne, voilà.
Roselyne Bachelot, qui était à cette estrade il y a quelques années maintenant, oui, quelques mois, disait, c'était juste avant l'élection, elle disait Nicolas Sarkozy est un être disruptif, c'est-à-dire qu'il est toujours là où on ne l'attend pas, et il cherche en permanence finalement à changer de position pour surprendre. Vous iriez c'est un peu le... Votre livre fourmille d'anecdotes, d'histoires, mais plus que des anecdotes. On comprend pourquoi les décisions sont prises, pourquoi elles sont aussi mal comprises, parce que finalement, il en fait toujours...
Mais je pense que c'est quelqu'un qui est victime de son tempérament. D'abord, quand on dit qu'il est bling-bling, il faut bien voir que cette réputation lui vient du Fouquet, mais pas du tout de la façon dont il a vécu ensuite. Parce que moi, je dirais que parmi les présidents de la République post-gaulliste, il est un de ceux qui travaille le plus. Moi, j'irais même plus qu'il travaille trop, enfin, d'une certaine manière, parce qu'il ne connaît jamais le repos. C'est quelqu'un qui est un drogué du boulot. Je cite toujours le cas de Mitterrand, qui, le samedi, prenait l'hélicoptère de la République, allait jouer au golf, allait dans les meilleurs restaurants avec les copains, revenait, enfin, jouissait des commodités du pouvoir. Lui, on ne peut pas dire ça. Il travaille tout le temps, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui à la fois connaît les sujets à fond parce qu'il est hypermnésique. Ça ne veut pas dire pour ça que les connaissant à fond, il prend toujours les bonnes décisions. Hein, ça, c'est autre chose. En tous les cas, c'est quelqu'un qui impressionne ses ministres et même qui leur fout la trouille, si j'ose dire.
Il est très, très direct.
Parce qu'il est très direct, mais surtout quand ils viennent le voir sur un dossier, il a toujours lu le paragraphe qu'eux n'ont pas vu. Donc, c'est quelqu'un qui est un petit peu... Et donc, comme il est toujours un peu dans la violence, c'est quelqu'un qui est toujours sous tension. Mais je crois qu'il est aussi victime de cette suractivité qui lui est propre, qui est même hors norme, et qui fait qu'il est toujours en avance sur les autres, que c'est lui qui amène l'opposition sur son terrain, et que pendant 5 ans, d'abord pour faire oublier quelque chose qui n'allait pas, il passait à un autre sujet, et la gauche ou les opposants sont toujours derrière lui et lui répondent. Je veux dire, ce ne sont pas eux qui créent l'événement. Ce sont eux qui lui répondent. Parce qu'il a à la fois cette forme de réactivité permanente, à en donner le tournis, quelquefois. Et moi, je dirais que l'inconvénient de ce caractère, c'est qu'il ne hiérarchise pas ses priorités. Vous voyez, par exemple, là, moi, ce que j'avais trouvé extravagant dans la gestion de sa politique, c'est lorsqu'il vient de réussir, mais là, on en parlera, bon, la campagne, sa présidence de l'Union européenne, fin 2008, au mois de janvier, au lieu de rester un peu tranquille et d'attendre que les retombées, alors qu'il a vraiment été un leader, reconnu par tous comme un leader exceptionnel. Mais qu'est-ce qu'il fait en janvier 2009? Il va faire 22 discours de vœux. 22 discours de vœux, c'est-à-dire qu'il va dans toute la France et pour chaque profession et tout ça. Si bien que les télévisions, alors qu'on entre en récession début 2009, qu'est-ce qu'elles font les télés? Trois fois par semaine, elles font 1 minute 30 de Sarkozy le soir. Et les Français qui regardent ça, qui disent, mais où veut-il en venir, quoi? Et au lieu d'être une information pour dire aux Français, regardez comme je travaille bien, les Français, c'est complètement anxiogène. Moi, je dis que Sarkozy, c'est le plus mauvais communicateur qu'on puisse avoir. Parce que c'est quelqu'un qui, étant dans l'activité, ne donne donne pas du temps au temps pour dire aux gens, regardez, j'ai fait ça et c'est bien. C'est-à-dire qu'il ne capitalise jamais sur un acte positif. En revanche, qu'est-ce qu'il engrange sur des choses négatives?
C'est pour ça que vous l'appelez l'impétueux, finalement.
Ben oui, parce que dans l'impétueux, quand je cherchais un titre, et dans l'impétueux, il y a tout. Vous voyez, dans l'impétueux, il y a à la fois l'élan, l'audace, le courage, disons des choses positives, et puis de l'autre côté, l'impulsivité, le côté brouillon, l'agitation, et il est tout ça.
Est-ce qu'il n'est pas aussi envieux? J'ai pensé à l'envieux un petit peu aussi.
Ah bah juste, envieux
non
de quoi?
Je ne sais pas, par exemple, quand il se retrouve avec les présidents de la République, il a toujours l'impression d'arriver à un endroit où finalement rien ne le destinait, ça le rend très fier. Quand il nomme avec Condoleezza Rice Yadé, c'est pareil. Il dit « Ah, ça va faire bien sur la photo que... ».
Non, disons qu'il est un peu hâbleur et qu'il a envie d'exister, mais il n'est pas envieux. Il a une rivalité avec Obama, parce qu'Obama était absolument adoré par les Français en janvier 2009, et donc il trouvait que, voilà, il arrivait comme ça, il ne connaissait pas le métier, il avait quelques réflexions comme ça, un petit peu méprisante mais il y avait peut-être un peu de jalousie sûrement, mais et en plus les rapports avec Obama ont été difficiles parce que Obama est l'anti-Sarkozy, c'est-à-dire que c'est un type qui est glacial, qui a l'air chaleureux comme ça, mais qui est qui n'aime pas qu'on lui tape sur les épaules, et puis qui prend ses distances, enfin ça, les rapports ont été difficiles, et puis maintenant ils s'entendent très bien, ils ont mis un à s'entendre. Non, mais on ne peut pas dire que non, c'est l'envie, je dirais.
Alors,
pas
vous
ça.
Dites que vous-même, finalement, il se fait du mal. Il ne profite pas parfois de... Il y a deux exemples. La loi TEPA, où finalement, vous indiquez bien que la loi TEPA...
Mais la loi TEPA, c'est très intéressant, parce que c'est une...
C'est un point qui fait le problème, et
oui,
finalement...
Non, mais la loi TEPA, c'est la loi travail, emploi, pouvoir d'achat. Bon. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait campagne contre les 35 heures, et moi, je pensais qu'ayant tellement dénoncé cette mesure qui a été très, très préjudiciable à la compétitivité de la France et qui le reste, il allait les supprimer. Or, il a fait les heures supplémentaires défiscalisées, qui était une manière de contourner la loi sur les 35 heures. Mais pourquoi a-t-il choisi cette formule? C'est-à-dire que... est-ce que les 35 heures sont vraiment réformables? Ça, je veux dire, en tous les cas, il ne s'y est pas attaqué. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la plupart des entreprises ayant passé des contrats d'annualisation du travail avec les salariés, si vous voulez revenir aux 35 heures, je veux dire, les entreprises pouvaient s'adresser, faire appel au Conseil constitutionnel qui devait trancher si oui ou non elles pouvaient y revenir. Donc, s'il avait choisi cette méthode, il n'y aurait eu aucun résultat avant plusieurs années, et c'était très difficile. Et d'ailleurs, à l'UMP, on dit que c'est Chirac. Chirac aurait encore pu y revenir, mais lui n'a pas voulu y revenir. Et aujourd'hui, c'est très difficile. Donc, il a choisi cette formule des heures supplémentaires défiscalisées qui ont profité aux salariés, aux ouvriers, beaucoup aux enseignants, mais qui a vraiment été aussi la mesure la plus onéreuse. Or, en France, les 35 heures sont toujours là et représentent un manque à gagner de 15 milliards d'euros par an. Mais les heures supplémentaires défiscalisées, ça coûte 4 milliards et demi. Donc, on est un pays où 15 milliards et demi pour que les gens travaillent moins et 4 milliards et demi pour que les gens travaillent plus. Vous voyez, il n'y a pas un pays où une chose pareille existe.
Ce qui reste, c'est le bouclier fiscal.
Oui, alors là encore, alors quand je vous ai dit très mauvais communicant, bon, cette loi qui comprenait aussi des baisses de fiscalité sur la transmission et l'héritage, il y a le bouclier fiscal parce qu'il n'a pas eu le courage de supprimer l'impôt sur la fortune, parce que, comme le lui conseiller, plusieurs de ses conseillers, en prétextant que dans le fond, Chirac avait été battu en 88 parce que Balladur avait supprimé l'impôt sur la fortune. Et vous savez très bien, quand on dit le mot fortune en France, ça crée des... Je veux dire, les Français ont avec l'argent un problème, une relation particulière. Donc lui, son problème, c'était que les Français partent, qu'il y ait moins d'évadés fiscaux. Donc il a imaginé le bouclier fiscal à 50%. Il y avait déjà le bouclier Villepin à 60%. Lui, il a voulu le descendre à 50%. Mais quand il s'agit de moins payer d'impôts, vous savez que Bercy fait tout pour, évidemment, éviter que les Français payent le moins d'impôts possible. Donc, ils ont un peu... à partir du moment où la mesure était décidée, dans le fond, on pensait qu'il suffisait pour les gens qui devaient payer telle somme d'en faire eux-mêmes la déclaration, défalquer à 50%, ça aurait été le système déclaratif. Mais Bercy, ayant peur que ça amène trop de baisses de rentrées pour les caisses de l'État, a voulu faire le système restitutif. C'est-à-dire que ceux qui voulaient profiter du bouclier fiscal devaient en faire la demande à Bercy, mais avec le risque que ceux qui en faisaient la demande, c'est que Bercy vienne regarder de plus près leurs comptes. Et donc, ça refroidissait les ardeurs. Et du coup, il y a eu finalement peu de gens très riches qui ont demandé à profiter. Madame Bettencourt, qui évidemment a reçu son chèque, mais qui, on oublie de dire qu'elle paye aussi énormément d'impôts et qu'elle aurait pu quitter la France.
En l'occurrence, le
chèque de 30 millions a tué le bouclier fiscal. Mais vous voyez, quand vous voyez que les heures supplémentaires défiscalisées, ça a été un manque à gagner de 4,5 milliards, et le bouclier fiscal, ça n'a jamais coûté à l'État plus de 600 millions, 700 millions une année. Bon, il est supprimé. Mais vous voyez bien que la gauche a pu s'engouffrer en disant « Sarkozy gouverne pour les riches ». La communication a été nulle, et moi je dis que 600 millions, c'est la sardine en or qui a bouché le port, voyez. Parce que c'est vrai que c'était beaucoup d'argent, c'est vrai que ça a peut-être empêché quelques personnes de partir, mais d'abord ils ont continué à partir parce qu'en France, l'insécurité fiscale fait que les Français qui ont des biens ne veulent pas, ne croient pas à la pérennité des mesures qui sont prises. Et donc, ça a été une mesure en termes de communication, très, très contre-productive. Mais quand la gauche a pu dire 13 milliards pour les riches, mais ça, c'était une propagande, ça n'existe pas. Je veux dire, la loi TEPA, ça n'a jamais été que 600 millions pour les riches. Mais ça lui a... Moi, je pense qu'il aurait dû le supprimer beaucoup plus tôt, ce bouclier. Il l'a supprimé, c'est vrai, après, quand la majorité, enfin, certains membres de sa majorité lui disaient, mais il faut arrêter, mais lui disaient, moi, je ne veux pas faire comme mes prédécesseurs, c'est-à-dire que je prends des mesures et au bout de 6 mois, j'y renonce. Et là, il a voulu dire, mais non, je m'y étais engagé, je continuerai. Et là, il a eu tort parce qu'il en a payé le prix politique très, très fort. Et même encore aujourd'hui, on continue de dire qu'il a gouverné pour les riches. Alors quand on regarde de près, ce n'est pas vrai.
Ouais. Il y a un autre point sur lequel on peut revenir, c'est son salaire aussi. Parce que finalement... il arrive. Non, mais c'est.
Non, mais on va
non,
en parler.
Mais c'est très intéressant parce que finalement, il ne fait que.
Non, mais le salaire.
Mais non, je crois que vous comprenez. Je dis pas dans le sens. C'est simplement pour dire que là aussi, il ne fait qu'officialiser quelque chose qui était un peu caché.
Non, c'est-à-dire que quand il est.
Il le rend véridique.
Quand il est arrivé au pouvoir. Il demande à sa directrice de cabinet combien je gagne. Et on lui dit 8 000 euros par mois. Alors il dit, mais pourquoi est-ce que Chirac avait 21 000 euros ? On dit, mais parce que lui, cumulait la retraite de la Cour des comptes, je ne sais plus, enfin, d'une certaine chose, il arrivait à 21 000 euros. Bon. Et il dit, et combien gagne le Premier ministre ? On lui dit 21 000 euros. Alors lui, il a dit, bon, ben moi, je veux gagner comme le Premier ministre. Voilà. Et donc, donc il a aligné son salaire et la gauche a dit vraiment, il s'est augmenté. Alors en vérité, il s'est augmenté de 140%. Et puis maintenant, Martine Aubry a dit qu'il s'est augmenté de 170%. Voilà. Non, mais la vérité, c'est ça. Toujours les rapports avec l'argent, ça, vous avez raison de le souligner. Ça a été quelque chose qui a pesé. Et comme c'est très difficile de s'en défendre, mais il est le premier à avoir fait venir la Cour des comptes.
Voilà,
pour...
c'est ce qui va avec aussi.
La Cour des comptes vient maintenant vérifier les comptes de l'Élysée. Et aujourd'hui, il paye, dès qu'il reçoit des amis, il le paye sur sa cassette privée. Et je veux dire, alors que vraiment, ses prédécesseurs n'avaient jamais... c'était dans le fond, c'était à la discrétion des... C'était pas contrôlé du tout, quoi.
parmi les réformes, il y a le service minimum. Vous y arrêtez un peu, vous expliquez comment ça s'est passé.
Oui.
Ça aussi, je crois qu'il le met à son bilan et à son
crédit. Le service minimum, le service minimum...
Vous dites aussi que c'était une négociation difficile. Mais
ça a été une négociation difficile.
Il n'y avait pas d'autre moyen de l'obtenir que qu'elle soit difficile.
Non, mais je veux dire, ça a été une avancée. Ça n'a pas... Le droit de grève est toujours là, mais ça a quand même permis... Ça a mis un terme au piquet de grève. Vous savez, quand il y avait un noyau dur qui faisait la grève, empêchait les autres de venir travailler. Mais là, avec la déclaration 48 heures à l'avance, ça permet d'améliorer le service pour les usagers et surtout de les prévenir. Et ça a changé un état d'esprit. Et surtout, maintenant, alors qu'avant, il y avait toujours des arrangements, surtout les jours de grève sont défalqués du salaire mensuel tout de suite au lieu de s'étaler dans le temps sur 12 mois comme ça pouvait être fait. Et je pense que ça a été quand même un frein à la gréviculture à la SNCF. Ça, c'est sûr, oui.
Alors, pas qu'on revienne sur le début, simplement, peut-être qu'il y a eu effectivement le problème avec sa femme qui allait devenir son ex-femme. Mais la première année, la deuxième année de son quinquennat est quand même marquée par l'irruption de la crise des subprimes qu'il ne prévoit pas pendant la campagne.
Mais c'est-à-dire que
bâtit son programme sur une situation qui est tout à fait inverse.
Mais c'est-à-dire qu'il a bâti son programme de loi TEPA, qui était une baisse des mesures fiscales pour un coût d'environ 11 milliards d'euros. Et il pensait que grâce à ces mesures fiscales, la France, auquel Bruxelles, tous les experts, y compris Thierry Breton, le ministre des Finances Dominique de Villepin, avait dit que la France devrait bénéficier d'une croissance de 3%. Donc, cette mesure de baisse fiscale pour relancer la consommation, il y croyait. Et il n'imaginait pas que la crise allait arriver dès août 2007. La crise des subprimes, elle a commencé dès août 2007. Et surtout, en plus, il s'est... Et donc, la loi et la croissance est tombée à 1,8 en janvier. Donc, la loi n'était plus adaptée. Elle était à contre-courant. Bon. Et puis, en plus, il s'est fait élire sur le pouvoir d'achat. Je serai le président du pouvoir d'achat. Et dès septembre, il y a eu une hausse des matières premières, dont le pétrole, vraiment qui a augmenté de 150% en novembre, mais surtout à cause de la sécheresse en Australie, le prix du blé. Et quand le prix du blé augmente, c'est toutes les matières premières alimentaires qui s'enchaînent. Et en novembre, le panier de la ménagère avait augmenté de 10%. Donc après, c'est difficile de dire « je suis le président du pouvoir d'achat ». Bon. Et donc, vous ne pouvez pas vous excuser, vous êtes fautif, vous l'avez promis, vous ne deviez pas le promettre. Donc la communication est difficile dans ces cas-là.
Est-ce que vous expliquez que c'est pour ça qu'il fusille plus que du regard, de la voix François Fillon quand il dit le pays est en faillite? Parce que finalement, on décrit souvent, ou la gauche en tous les cas, critique Sarkozy comme étant un libéral. On voit dans le livre qu'il est assez attaché au système français, aux amortisseurs finalement sociaux. Il ne revient pas facilement sur les...
Un homme politique vraiment libéral en France, ça n'existe pas dans le magasin. Je veux dire, ils sont tous étatistes. Et Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était ministre des Finances, écoutez, il était un étatiste qui pense que le rôle de l'État pour sauver des entreprises, et il croit au rôle de l'État et il n'est pas du tout...
Mais ce qui est frappant, c'est que plusieurs années, il ne veut pas entendre parler du mot rigueur, il ne veut pas entendre parler des difficultés, des économies, ce qu'il fait maintenant, parce que
il a dû s'y résoudre, mais au départ, il partait du postulat que trop de politique de rigueur fait que ça ne réussit nulle part et que la croissance est en berne. Voilà. Donc il fallait, c'était très difficile, de prendre des mesures, la France vit à crédit aussi. Hein. Beaucoup lui ont reproché de ne pas avoir le courage de serrer beaucoup plus les vis, mais lui disait que, par exemple, en 2009, pendant l'année de la récession, s'il avait mené une politique de rigueur trop drastique, le pays n'aurait pas tenu, c'était difficile. Donc, il a fait du pilotage à vue, plus ou moins, et plus ou moins réussi. Mais quand même, là, aujourd'hui, c'est la première fois que les dernières informations le montrent. Enfin, il, il a commencé à réduire le déficit budgétaire et il a pris les mesures.
Il annonce 115 milliards supplémentaires.
Voilà.
Alors, vous consacrez deux chapitres importants à ses relations avec François Fillon. Parce que finalement, je ne sais pas, il y a peut-être eu des dizaines de milliers d'articles pour dire ou expliquer que ça allait s'arrêter, que ça ne pouvait pas continuer, qu'il y en a...
Mais vous savez, je
finalement,
crois...
on découvre aussi sa fidélité, puisque...
De
Nicolas Sarkozy, finalement, vous le dites, il n'aime pas changer tant que ça les gens.
Oui.
Et
mais
on
vous
dirait
savez,
que finalement, ils ont fini par s'accommoder l'un
l'autre.
Mais
vous savez, d'abord, il faut bien voir que... On est élu président, mais on n'est pas président du jour au lendemain. D'abord, c'est une charge énorme. On ne mesure pas...
Surtout quand il s'investit comme lui.
Et donc, il lui a fallu du temps pour entrer dans le rôle du président. Il voulait tout faire, parce que c'est un homme qui a le sentiment qu'il n'en fait jamais assez. Et Fillon, avant de trouver leur mode d'emploi réciproque, ils ont mis du temps, parce qu'autant Sarkozy est toujours comme ça, éruptif, extraverti, dans l'attention, autant Fillon est quelqu'un qui est introverti, qui prend pas son téléphone pour se plaindre ou téléphoner. Donc ils ne se comprenaient pas mutuellement. Ils ont mis un certain temps et maintenant je crois qu'ils y sont arrivés. Mais les mauvaises relations entre un président et son premier ministre, c'est monnaie courante dans la Ve
République. Et
comment
vous expliquez que ça ait quand même duré et finalement pas si mal?
Eh bien, parce que Nicolas Sarkozy n'aime pas changer les têtes autour de lui. C'est quelqu'un qui garde les mêmes collaborateurs et qui trouve que finalement, Fillon le sert, parce que c'est d'abord quelqu'un de très loyal. Et au fond...
Il ne dit pas toujours ça.
Oui, mais au début...
À un moment
début...
donné, vous lui faites dire... il est un peu faux cul.
Ah, mais non,
c'était avant.
C'était avant. Ça, en politique, on dit toujours du mal des copains. Je veux dire, dans un même camp. Et la haine, en tous les cas, les dissensions, elles passent à l'intérieur des camps quand on court vers le même... Enfin, on court vers la même ambition. Et à l'époque, c'était l'avoir la direction de l'UMP. Mais il n'empêche, ces deux hommes qui sont totalement... je peux dire l'inverse l'un de l'autre, on finit par s'entendre et aujourd'hui ils sont arrivés à une véritable complicité, d'autant que François Fillon n'est pas quelqu'un qui vise l'Élysée, il n'a jamais été un concurrent. Et,
il ne pense pas du tout,
comment
Fillon à l'Élysée.
Je ne sais pas s'il y pense, mais il ne le dit pas parce que c'est quelqu'un qui ne dévoile jamais ses ambitions, parce que c'est quelqu'un qui trouve que ça ne se fait pas de dire
qu'on
est
ambitieux.
Alors
il y a plusieurs, vous citez l'accro de la TVA.
Oui.
Quand il veut augmenter la TVA et que Fillon ne veut pas, considérant que ce n'est pas...
C'est-à-dire que la TVA qu'il aurait fallu sûrement augmenter dès le début... il a eu tort de dire qu'elle pourrait augmenter de 5% et ça nuit aux élections législatives de juin 2007. Et c'est vrai que la majorité auxquelles les sondages...
Une marée bleue,
eh bien la marée bleue a été restreinte à cause de ça.
L'autre épisode, c'est l'ouverture, où là, quand même, avec Fillon, c'est pas si simple non plus. Avec l'UMP en général, c'est pas si simple.
Mais l'ouverture.
Comment vous expliquez qu'il veuille à ce point.
Mais Nicolas Sarkozy a voulu faire l'ouverture, d'abord parce que.
C'est parce qu'il veut plaire à ses adversaires, on dit.
Oui, mais pas seulement, parce qu'il se rend compte aujourd'hui. D'abord, il y a des antécédents. Giscard aussi avait pratiqué l'ouverture en faisant entrer au gouvernement Jean-Jacques Servan-Schreiber ou François Giroud qui avait appelé à voter Mitterrand. En 88, Mitterrand lui aussi a fait l'ouverture puisque dans le gouvernement Rocard, il y avait 17 ministres qui n'étaient pas socialistes. Et lui qui venait de vivre un septennat avec les socialistes, il voulait surtout qu'il y ait le moins de socialistes possible parce qu'il les connaissait justement. Et donc, il avait fait venir 17 ministres dont celui qui avait le rôle le plus important était Jean-Pierre Soisson. Et pour vous dire qu'une majorité n'accepte pas l'ouverture, Soisson m'a toujours raconté que le ministre de l'Éducation, en l'occurrence Jospin, ne lui a pas dit bonjour, ne lui a pas serré la main pendant 6 mois alors qu'ils étaient dans le même gouvernement. Donc quand Nicolas Sarkozy a voulu faire l'ouverture et a donné des postes importants à des élus, à des hommes venus de la gauche, que ce soit Kouchner...
Vous dites qu'il les a tous appelés,
Jouyer, hein, Manuel Valls... Oui, enfin, il les a appelés pour montrer qu'il n'était pas pas sectaire, mais sachant qu'il refuserait. Mais il voulait montrer qu'à l'inverse de Chirac, qui s'est fait élire en 95, après la bagarre avec Balladur, et qui a fait un gouvernement complètement chiraco-chiraquien. Et donc là, c'était... Et après, on l'avait accusé d'avoir un État UMP, un État... Bon, voilà. Donc il ne voulait pas...
Ça n'a pas si mal marché, d'ailleurs.
Mais, je veux dire, moi, je pense que ça ne lui a rien rapporté, sauf beaucoup d'ennuis avec sa majorité. Voilà.
Et ça ne l'a pas apporté l'adhésion de l'opposition non plus. Mais ça, c'était perdu d'avance.
C'était perdu d'avance. Oui, mais il ne pensait pas que la gauche reprendrait... En 2007, il pensait que la gauche ne se reconstituerait pas aussi vite, vous voyez.
On en parlera peut-être plus tard, mais Hollande, il n'y a jamais cru un instant. Il est surpris aujourd'hui par la candidature d'Hollande. Enfin, plus maintenant, mais...
Non, mais il avait toujours dit, je prendrais ce que les socialistes, je prendrais le candidat que la gauche choisira. Et aujourd'hui, on est en campagne, et qu'il dise du mal de son adversaire, il en dit autant que son adversaire en dit de lui. C'est dans le jeu de la campagne, là.
Est-ce qu'on peut revenir sur les conditions de la cassure dans l'opinion ? Vous expliquez bien qu'il est... jusqu'à un certain moment, à plus de 50% d'opinion, et puis tout d'un coup,
il
chute et ça remonte.
Non, mais l'histoire de Sarkozy, c'est ça ce qui est singulier, c'est que en décembre 2007, il est encore à 50% d'opinion positive, puis en janvier, c'est vrai que Carla est arrivée, puis il y a eu la visite de Kadhafi à Paris, et puis il y a eu la conférence de presse où il a dit Carla et moi, c'est du sérieux. Enfin bref, en janvier, il est
à 40. Que ça décroche.
En janvier, il est à 40. En février, il est à 33. Fillon passe devant. Et dans le fond, ça n'a jamais... C'est comme si les Français ne lui avaient pas pardonné ces 6 premiers mois pendant lesquels il a divorcé et il s'est remarié. Voilà. Où il a géré deux événements avec un stress dur à vivre pour un homme, et ils ne lui ont pas pardonné parce qu'ils ont estimé qu'un président doit avoir un autre comportement et ne pas mêler sa vie privée alors que lui, il ne l'avait pas choisi. Mais enfin, voilà, ça c'est un fait. Mais en revanche, là, vous essayez de me faire dire, là, avec raison, tout ce qui est dans mon livre sur ce qui est négatif, et c'est vrai que les Français voient assez peu...
Non, j'essaie de vous parler de choses négatives. Oui,
assez
de choses
peu.
Positives. Non, pas du tout. On va y venir à l'international. Je vous ai demandé de parler du service minimum, notamment.
Oui,
dire que dans la loi TEPA, il y a beaucoup de choses que peut-être d'autres feront, même s'ils sont du camp d'en face. C'était plutôt le sens de ce que je voulais dire. Et j'en arrivais à cette réflexion qui est faite, qui disent qu'en fait, ce n'est pas tellement sa politique que son comportement. Non, c'est vrai qu'on a l'air de se répéter.
Non, mais c'est vrai.
Mais que sur la réalité de la politique, finalement, quand on entend les socialistes dire... montrer qu'ils ne reviendront pas d'arrière sur beaucoup de points. Voilà, c'est la contradiction du personnage. C'est que finalement, il a réussi à faire, mais...
Non, mais je crois que
des symboles accrochés à lui qui sont...
Son défaut, il est, je dirais, dans ses qualités. C'est d'être toujours, toujours à l'abordage, toujours... Je veux dire, on entend parler de lui tous les jours. Donc, à la fin, les Français, au lieu d'être en attente et en désir, ils sont un peu saturés. Mais le paradoxe avec Sarkozy, c'est que lorsqu'il passe à la télévision, et Dieu sait s'il a fait des émissions longues, ben, les Français restent du début jusqu'à la fin. L'écoute jusqu'au bout, c'est ça qui est un des grands paradoxes de Sarkozy. Parce que
témoigner que les ventes de journaux augmentent chaque fois que Nicolas Sarkozy passe à la télévision. Et les journaux,
parce que moi je demandais à l'automne, quand il y avait les primaires socialistes qui ont bien marché, je disais au Nouvel Obs, mais pourquoi vous passez pas à la une Martine Aubry ou François Hollande ? Ils disaient parce que ça ne se vend pas. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, je veux dire, Sarkozy vend, ça se vend toujours. Une une d'hebdo, ça se vend. Alors, si on dit du mal de lui, ça se vend. Du bien, on n'en dit pas souvent. Mais je veux dire, c'est un produit d'appel. Et c'est pour ça qu'il dit, finalement, je suis un produit plus frais que les autres, parce que moi, je vends toujours. Voilà.
Alors, on n'a peut-être pas le temps de l'évoquer dans le détail, mais après, il y a la période où c'est naturellement sur la scène internationale qui s'illustre.
Bon, oui, voilà. Parce que
c'est quand même une succession de succès. Excusez-moi pour l'expression.
Oui.
La Géorgie, la Libye, après avoir reçu, c'est sa capacité à se rétablir, puisque après avoir reçu Kadhafi, c'est quand même lui qui organise
la libération de la Libye, d'une certaine façon.
Oui.
Et on a le sentiment, pourtant, que ça... Les Français, finalement, l'international, comment vous voyez
les
choses ?
Non, mais les Français...
Est-ce qu'il ne serait pas un excellent président de l'Europe dans un deuxième mandat ?
Peut-être. En tous les cas, il a été un grand Européen, parce que l'Europe était en panne après le vote négatif des Français sur la Constitution européenne. Quand il est arrivé à l'Élysée, son premier voyage, ça a été pour aller voir Angela Merkel, alors que 18 pays sur 27 avaient déjà adopté la Constitution. Il lui a dit, non, il faut tout reprendre à zéro, il faut un mini-traité simplifié pour relancer l'Europe, sinon on n'y arriverait pas. Et elle a accepté. Il l'a convaincu qu'il fallait le faire. Et l'Europe a été relancée. Et il faut dire que la façon dont il a géré la présidence de l'Union européenne a été exceptionnelle. D'abord parce qu'il a su séduire le Parlement européen et tous ses partenaires européens. Mais il s'est trouvé face à une conjoncture très compliquée avec la Géorgie s'il n'avait pas été là, probablement que Poutine aurait destitué Saakashvili en Géorgie, aurait peut-être occupé le pays et personne n'aurait été faire la guerre en Géorgie. Donc là, il l'a empêché, même si les deux provinces qui étaient rattachées à la Géorgie sont restées indépendantes et plutôt affiliées à la Russie. Mais je veux dire, personne n'était prêt à mourir pour aller se battre pour l'Ossétie du Sud ou pour l'Abkhazie. Donc il a réussi et au grand soulagement de tout le monde. Mais surtout, il était président de l'Union européenne. Lorsque la chute de Lehman est arrivée et que là, ça a été une sorte de coup de foudre dans tout le monde financier où les banques, non seulement en Europe mais dans le monde entier, ne trouvaient plus à se financer. C'était la thrombose dans le circuit financier. Et lui, il a compris que face à un événement aussi vertigineux, la réponse devait être collégiale et coordonnée. Et donc, c'est lui qui, à grand-peine, a réussi à convaincre Angela Merkel, qui, elle, pensait que ses banques était très solide et que, compte tenu de son équilibre budgétaire, elle ne craignait rien. Et puis elle s'est aperçue que ses propres banques avaient aussi acheté des toxiques, comme on dit, des subprimes, et que plusieurs faisaient faillite. Et que là, elle a compris que là, il fallait vraiment jouer collectif. Et donc, il a fait cette réunion pour la première fois au niveau gouvernemental des présidents et des chefs de gouvernement de la zone euro. Et il a trouvé la méthode pour juguler cette crise. Et là,
personne ne relève aujourd'hui que malgré la perte du triple E, l'argent n'a jamais été acheté aussi bas.
L'argent n'a jamais été aussi bas parce que la Banque Centrale Européenne a rempli enfin son rôle de Banque Centrale Européenne, ce qui n'était pas prévu par les textes de Maastricht et ce que fait aujourd'hui Draghi, bien qu'en tordant un peu les textes.
Parce que la France aussi donne une image d'un pays fort quand même.
La France donne l'image d'un pays fort, enfin à moitié, parce que ses comptes et son endettement qui est accumulé depuis 30 ans ne fait pas d'elle un pays fort. Mais je dirais que dans les circonstances et dans l'état où est la France, Sarkozy lui a donné un rôle qu'elle n'aurait peut-être pas eu autrement. En tous les cas, parce que c'est quelqu'un qui, sur la scène internationale, a du leadership et sait entraîner les autres. Et par exemple, Alain Juppé, que vous connaissez, et qui, avant d'être ministre de Nicolas Sarkozy, dans ses blogs, le critiquait. Bon, mais quand on lui parle maintenant de la façon dont il perçoit Nicolas Sarkozy la présidence, lui dit, ce qui m'a le plus bluffé, c'est de voir que dans les réunions du G20, qu'il a lui-même... c'est lui qui est à l'origine de cette réunion, qui permet à des chefs d'État et de gouvernement qui ne se parlaient pas avant et qui maintenant se parlent et qui fait que maintenant, il y a quand même un début de régulation qui a commencé sur les paradis fiscaux. Alors, évidemment, tout ça est très lent et tout ça. Mais il dit, quand il y a ces réunions-là, il y a deux pôles de lumière, c'est Obama et Sarko. C'est comme ça. Bon, c'est pas les autres. Et donc, lui, il dit qu'il est impressionné par... vous savez, dans ces milieux, dans ces grandes réunions de diplomates et de chefs d'État où on ne s'exprime que par périphrase, lui, avec son énergie, même voire sa brutalité, fait, il pousse les autres à prendre des décisions et entraîner, et que, oui, et il dit, on va pas se quitter sans prendre des décisions. Et en plus, sa vitalité hors norme et joue un rôle important. Par exemple, quand il y a des sommets européens qui s'éternisent en longueur où aucune décision se prend, mais comme lui, il peut rester une nuit sans dormir, vers 3 heures du matin, quand il dit aux autres, bon, on décide, mais c'est sûrement un moment de moindre résistance et il emporte la décision, vous voyez. Non, mais il est comme ça. Voilà. Donc,
Pour vous le décrivez comme un personnage hors du commun.
Oui, c'est un personnage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est hors du commun, d'abord sûrement par ses défauts, qui sont dans l'impétueux et qui peuvent agacer. Mais
qui n'en a pas.
Comment ? Oui, mais lui, si vous voulez...
Il les montre, oui.
Il les montre, et puis surtout, c'est toujours paroxystique à cause de cette énergie. Moi, je suis stupéfaite de voir qu'il puisse... avoir cette vitalité-là. Donc, il a ces défauts-là, mais il a des qualités aussi hors normes. C'est-à-dire, je dirais qu'il a des défauts hors normes et des qualités exceptionnelles. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas Sarkozy si on ne le regarde pas, comme je dis, avec les deux yeux. Parce que dans mon livre, c'est pas du tout... Je l'épargne absolument pas. Je souligne toutes les erreurs qu'il a pu faire, et il m'a choqué plus d'une fois. Et ça m'est même arrivé pendant ces années, puisque au fil des mois, je notais tous les événements et tout ça. Et puis certaines fois, je me disais, mais pardon, je vais être vulgaire, mais je me disais, mais quel con, pourquoi il dit ça, quoi, je suis choquée, pourquoi il est comme ça, et il me choquait moi-même. Et puis d'autres fois, oui, j'admirais en disant, je vois pas un autre capable de faire ça. Oui.
De tous les présidents que vous avez bien connus, comment vous le définiriez par rapport aux autres? Le meilleur,
Non. Le plus travailleur, oui. Le plus travailleur, et c'est quand même celui qui s'est trouvé à une conjoncture quand même beaucoup, beaucoup plus difficile. Hein, parce que, je veux dire, il n'a pas été épargné. Parce que, non seulement, alors, le divorce, qui est quand même un truc pas marrant, mais après, je veux dire, la crise, elle a commencé dès août 2007. Ça n'a pas arrêté, quoi.
Et vous posez la question, les Français seront-ils rassasiés ou non?
Eh bien oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est-à-dire que des Français peuvent se dire, est-ce que j'en reprends pour 5 ans avec un type qui a toujours la même énergie? Est-ce que je supporterai Est-ce qu'il ne faut pas donner sa chance à un autre? Et moi, je dirais que c'est quelqu'un qui... j'ai commencé mon livre en citant une phrase de Chateaubriand sur Napoléon, parce que ce qui m'avait impressionné, c'est quand on lit les Mémoires d'Outre-Tombe sur ce que dit Chateaubriand sur Napoléon, moi je croyais voir certains aspects du caractère de Sarkozy. C'est la même chose quand on lit la vie de Napoléon de Stendhal. Bon. Et donc je cite en exergue cette phrase de Napoléon qui dit « Napoléon avait des lacunes dans le génie ». Bon, ben, Sarkozy a des lacunes dans une forme de génie, si vous voulez. Mais Napoléon disait aussi « La balle qui me tuera portera mon nom ». Mais je pense, oui, c'est ma conclusion, parce que je pense qu'il a fait des choses, mais qu'il est son propre ennemi, et surtout son propre ennemi parce qu'il n'a jamais su organiser sa communication, faire monter des ministres qui disent « Regardez comme il est formidable », parce que ça va tellement vite qu'il ne donne pas de respiration au temps pour avoir le temps d'ingurgiter ce qu'il a fait de bien, mais en revanche, on voit tout ce qu'il a fait de mal, voyez. Et par exemple, Mitterrand, bon, ben lui, d'abord, il y avait un turiféraire en chef qui était Jacques Lang, qui secouait l'encensoir tous les jours, qui disait « Vous êtes formidable ». Mitterrand se mouchait, ça devenait un fait majeur dans l'histoire. Bon, Sarko, il ne sait pas faire ça. D'abord, il ne supporterait pas d'avoir quelqu'un qui soit... qui lui tresse des grandes. Et puis, sa propre majorité n'est pas... il la prend tellement à rebrousse-poil. C'est quelqu'un qui est toujours en tension. Vous voyez, un ministre me disait, avec Sarkozy, quand on va le voir, on ne se dit pas qu'on va passer un bon moment. On se dit qu'on va passer un moment intéressant. Vous voyez, parce que c'est autre chose. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est tout le temps... qui est comme ça. Voilà. Et donc, j'ai essayé de le décrire et... en montrant chaque année ce qu'il a fait d'intéressant, de bien, de moins bien, dans toute l'éventail de son action. Voilà.
Quelques jours d'aller voter, on comprend tout très bien. C'est très utile à la, connaissance du personnage.
Oui,
c'est ce que je voulais dire.
C'est ce que j'ai voulu faire.
C'est ni négatif ni positif. Je crois que c'est très objectif par rapport à ça. Merci. Je vous laisse à vos lecteurs.
Merci.